Dominique Désiré Erénon, bonjour.
Bonjour.
Le mois de janvier prochain, le comité de sanctions se prononcera sur la levée ou la reconduction de l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine. Dans une de vos publications, vous avez trouvé injustifié le maintien de l'embargo au regard du principe international. Que dit ce principe ?
Je vous remercie, monsieur le journaliste. Je vous dirai ceci d'emblée. L'embargo a été instauré le 5 décembre 2013 par le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est l'organe restreint des Nations Unies, a décidé d'instaurer un certain nombre de sanctions. Tout d'abord, des sanctions non militaires et des sanctions ciblées contre un certain nombre de personnes, dont 11 personnes physiques et 2 entités en République centrafricaine. Et par ailleurs, le Conseil de sécurité a aussi décidé d'édicter l'embargo sur les livraisons d'armes et du matériel militaire à destination de la République centrafricaine. À mon sens, l'embargo devait déjà être levé parce qu'il a été instauré en 2013. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. 5 ans se sont écoulés. Beaucoup d'événements, y compris politiques, se sont enchaînés, à commencer par le retour à l'ordre constitutionnel qui a fait que nous avons aujourd'hui un gouvernement légal, un gouvernement légitime qui doit disposer des moyens de sa politique. Et quand je dis moyens de sa politique, je veux par là désigner les armes, l'équipement militaire, les produits stratégiques et vitaux pour l'État, notamment pour les forces armées centrafricaines, afin que celles-ci puissent garantir la sécurité, garantir l'intégrité du territoire et assurer la libre circulation des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Donc, à mon avis, l'embargo, lorsqu'il a été instauré le 5 décembre 2000, c'était en fonction de la situation du chaos sécuritaire dans lequel le pays était plongé. On avait un chaos sécuritaire dans le pays. On avait aussi un chaos politique. Chaos politique, pourquoi ? Parce qu'il y a eu le renversement du président François Bozizé. Et après, on a vu la coalition rebelle Séléka arriver au pouvoir, mais sans réel programme politique, sans réelle autorité sur l'ensemble du territoire. Il y avait l'anarchie, il y avait des tueries de masse. On était à 2 ou 3 doigts du génocide, d'après certains. Et le Conseil de sécurité a tenu compte de tous ces facteurs pour édicter l'embargo. Donc, en 2013, on peut considérer que l'embargo était justifié. Sauf que, voilà, nous sommes en 2018, nous sommes revenus à l'ordre constitutionnel, nous avons un gouvernement légal et légitime qui doit faire son travail, qui doit avoir les moyens de sa politique, qui doit donner l'équipement nécessaire qu'il faut aux FACA pour que les FACA puissent assurer l'intégrité du territoire. Mais aujourd'hui, on est bloqué du fait de l'embargo. Donc, l'embargo aujourd'hui ne se justifie plus.
L'embargo ne se justifie plus alors que le comité de sanctions a laissé quand même des mesures dérogatoires pour permettre à la République d'avoir aussi des armes. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une porte de sortie?
Vous savez, on ne peut pas dire que l'embargo ne viole pas la souveraineté de l'État centrafricain. Même s'il y a une possibilité pour l'État, c'est pas moi, d'acquérir des armes, il y a une exception qui est faite dans la résolution des Nations Unies, il y a une exception qui est faite pour que le gouvernement centrafricain puisse acquérir un certain nombre d'équipements militaires. Je dis bien un certain nombre. Et c'est destiné uniquement dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Et donc, ça veut dire que c'est une possibilité, mais une possibilité très restreinte. Nous, aujourd'hui, nous plaidons pour que l'embargo soit totalement levé pour permettre au gouvernement centrafricain d'acquérir les armes, de doter les forces de défense et de sécurité pour que celles-ci, en vertu de l'article 27 de la Constitution du 30 mars 2016, puissent remplir convenablement leur mission, non pas seulement à Bangui, mais également sur toute l'étendue du territoire.
Vous plaidez, mais quels sont vos arguments juridiques et politiques pour faire ce plaidoyer?
Les arguments juridiques et politiques existent. D'un point de vue politique, nous avons un gouvernement légal, légitime, qui est en place depuis les élections de fin 2015. Nous avons donc le retour à l'ordre constitutionnel. Et aujourd'hui, on peut considérer que le gouvernement a la possibilité de contrôler les armes qu'on peut lui livrer. Quand je dis qu'en 2013, on était dans un chaos sécuritaire, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'armes dans le pays et personne n'était en mesure de contrôler le flux de la circulation de ces armes, petits et de gros calibre, qui inondaient l'ensemble du territoire centrafricain. Ça venait du Darfour, ça venait du Tchad, ça venait de la RDC, qui, disons, trouvait un moyen pour introduire les armes dans le pays. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui peut contrôler la circulation des armes en République centrafricaine. Et de ce fait, on peut déjà lever l'embargo parce qu'on a un gouvernement qui peut contrôler les armes. Parce qu'en 2013, il n'y en avait pas. Deuxièmement, d'un point de vue juridique, vous savez que tout État dispose de ce qu'on appelle la souveraineté. Et la souveraineté, ce n'est pas un mot en l'air. La souveraineté, c'est l'effectivité pour un État de pouvoir se protéger, de pouvoir
exercer son autorité. Et pour exercer son autorité sur l'ensemble du territoire, sur les populations, il faut que l'État déploie ses forces de défense et de sécurité. Et pour déployer les forces de défense et de sécurité, il faudrait que les armes soient accordées à ces forces de défense et de sécurité. Or, aujourd'hui, on est bloqué par rapport à ça. Et il y a aussi d'autres arguments juridiques. Il y a d'autres arguments juridiques. Vous savez que le président de la République, il a prêté serment. Et en prêtant serment, sur la base de la Constitution du 30 mars 2016, il a promis de garantir la sécurité des citoyens centrafricains. Aujourd'hui, quand vous voyez des massacres un peu partout dans le pays, eh bien, c'est parce que, justement, nous n'avons pas les moyens de protéger nos concitoyens. C'est parce que, tout simplement, la MINUSCA qui est là, qui doit faire le travail, n'arrive pas à faire le travail. Et nous avons aussi les forces de défense de sécurité qui sont formées, qui sont là, mais qui n'ont pas les moyens d'aller faire le travail. Donc, dans une situation un peu problématique où la MINUSCA, d'un côté, n'arrive pas à faire le travail de protection des civils et le gouvernement, peut-être, qui veut bien faire le travail, mais qui n'a pas les moyens de se doter en armes pour pouvoir équiper ses forces de défense et de sécurité.
Le hic dans cette question d'embargo, c'est que l'État est astreint d'obtenir du Conseil de sécurité l'exemption sur les armes, alors que les groupes armés, eux, ils continuent de s'équiper. Comment expliquer cet état de fait?
Mais parce que, si vous voulez, d'un point de vue pratique, les groupes armés réussissent à contourner cette mesure. Ils se font livrer des armes. La République centrafricaine, en tant qu'État, non. Nous, on doit demander une autorisation. Mais les groupes armés, eux, ils ne demandent pas une autorisation. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils réussissent à contourner cette mesure, tout simplement. Et puis, les armes leur sont acheminées dans la brousse, dans les régions qu'ils contrôlent. Alors que pour l'État, il faudrait que ce soit un canal officiel. Il faut qu'on demande au préalable au Conseil de sécurité une autorisation. Et l'autorisation, par exemple, a été donnée récemment. Le gouvernement s'est rapproché de la France. La France a demandé au gouvernement centrafricain d'aller voir nos amis les Russes. Nous sommes allés voir nos amis les Russes. Les Russes ont accepté, après autorisation du Conseil de sécurité, de nous livrer 5000 armes qui ont été saisies au large de la Somalie. Les armes qui appartenaient au Shebab. Une première cargaison a été livrée, 1000 armes, et il reste encore 4000. Et pour la livraison des 4000 armes, eh bien, il y a encore eu un blocage. Même la Chine aussi a décidé de nous accorder un certain nombre de matériel militaire et il y a encore un veto de la part du Conseil de sécurité.
Mais c'est donc quand même paradoxal.
La possibilité qui est prévue par la résolution des Nations Unies, là, en réalité, n'en est pas une.
Donc, selon vous, l'embargo est une sanction pour l'État dans le contexte centrafricain?
L'embargo, aujourd'hui, je le dis très clairement, est injustifié. Et il est même préjudiciable à l'État centrafricain. Cette mesure doit être levée, je dirais même sans condition. Un État dispose de ce qu'on appelle d'un droit non négociable pour pouvoir se protéger par lui-même sans avoir besoin d'aide. Du fait de l'embargo, aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Et donc, il faudrait que le Conseil de sécurité soit sensible à cette demande et comprenne qu'aujourd'hui, l'embargo porte plus préjudice à l'État centrafricain qu'aux groupes armés. Et que, d'un point de vue pratique, eh bien, cette mesure pose problème et il y a lieu de la lever pour permettre à l'État centrafricain de se doter en armes et de protéger ses citoyens avec la mission des forces de défense et de sécurité. De la Charte des Nations Unies, c'est un mandat robuste qui devait permettre à la MINUSCA de monter en puissance et d'aider efficacement le gouvernement. Parce qu'il faut préciser que la MINUSCA doit jouer un rôle non pas principal. Le rôle principal revient aux forces de défense et de sécurité. C'est pour ça que je plaide pour que les armes soient accordées à la République centrafricaine, pour que les forces de défense et de sécurité centrafricaines, c'est-à-dire les FACA, soient en avant et que la MINUSCA vienne après. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est la MINUSCA qui est toujours en avant et puis les forces de défense et de sécurité sont en arrière-plan parce que tout simplement, il n'y a pas d'armes. Je pense qu'il faudrait que le Conseil de sécurité puisse réfléchir sur la nature et le contenu de ce mandat. Et je pense qu'il y a un travail qui doit être fait au niveau de nos autorités pour traduire cela à qui de droit. C'est-à-dire qu'il faut revoir la nature et le contenu du mandat de la MINUSCA parce qu'on constate aujourd'hui que la MINUSCA peine à remplir sa mission de sécurisation et de stabilisation de la République centrafricaine.
Docteur Dominique Désiré-Irénor, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.